Amen. Je vous invite à faire une première lecture dans Luc, le chapitre 18, un petit verset que nous allons partager ensemble. Luc, chapitre 18, petit dans la taille, mais grand dans le sens, bien sûr. Luc 18, verset 8. On peut lire même le verset 6. « Entendez ce que dit le juge inique, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Amen. Une question qui est posée par le Seigneur Jésus, et dans les temps dans lesquels nous sommes, nous pouvons encore plus, je crois encore plus qu'à l'époque du Seigneur, nous poser cette question, parce que nous sommes proches de ce retour, de ce moment où le Fils de l'homme va revenir. Est-ce que le Seigneur va trouver la foi sur la terre ? Ce soir, je voudrais qu'on puisse voir l'exemple d'un homme qui va nous montrer quelle foi le Seigneur attend. Et cet exemple se trouve dans Matthieu, chapitre 8. Il s'agit d'un Romain. Il s'agit d'un monsieur qui avait une certaine place même parmi les Romains. Il était centenier. Et qui a été pris en exemple par Jésus par rapport à sa foi. Et je crois que si Jésus, au moment de son retour, pouvait trouver que des personnes comme ce centenier, je crois qu'on pourrait répondre à l'affirmative, à la question qu'il a posée. S'il va trouver la foi sur la terre, s'il n'y a que des centeniers, s'il n'y a que des hommes qui s'inspirent de cet exemple en tout cas, bon, la réponse elle est oui. Ce soir, nous avons ce modèle qui nous est donné, et à nous de saisir cette vérité et de, s'il le fallait, de grandir dans la foi et d'avoir les attitudes de cœur qui font que la foi va devenir grande. Matthieu chapitre 8, verset 5, il est dit, « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant, et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va, il va, à l'autre vient, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Amen. Voyons plusieurs choses qui se passent dans le cœur de cet homme qui nous montrent justement de quelle manière notre foi peut s'agrandir, peut-être augmenter. Les disciples, à un moment donné, sont venus voir Jésus, ils ont dit « Seigneur, augmente notre foi ». Et je crois que ce soir, ça peut être aussi une question qu'on peut poser au Seigneur. Peut-être quelqu'un qui n'a pas du tout de foi peut dire « Seigneur, je veux avoir cette foi en toi ». Peut-être nous qui le connaissons déjà, nous pouvons dire aussi « Seigneur, je veux que, au travers de ce qu'on va partager, tu puisses augmenter ma foi. Je veux faire encore un pas de plus avec toi ». Première chose qui nous interpelle, c'est que la foi de cet homme, elle ne dépend pas des miracles. Dans Jean chapitre 12, il est question d'un grand nombre de miracles. Malgré un si grand nombre de miracles que Jésus avait fait en leur présence, les gens ne croyaient pas en lui. Notre foi ne doit pas dépendre des miracles. Et nous voyons bien que cet homme, peut-être qu'il a entendu parler des miracles qui ont été faits juste avant, mais en tout cas, lui, c'est pas les miracles qui ont été faits avant qui l'importaient. Ce qui l'intéressait, c'était le miracle que Jésus pouvait faire, la façon dont Jésus pouvait répondre à son besoin. Cette foi qui ne dépend pas des miracles, mais cette foi qui est sérieuse dans sa recherche. Est-ce que ce soir nous avons ce cœur qui est sérieux avec les choses de Dieu ? Le centurion, quand on regarde son exemple, on voit qu'il a fait preuve de sérieux. Luc nous explique qu'avant même d'aller voir le Seigneur, il a d'abord envoyé des personnes parce qu'il n'osait même pas s'approcher de lui. Et à un moment donné, il est quand même venu et on voit que le sort de son serviteur était tellement important pour lui qu'il a choisi de faire appel au Seigneur. Il a pris à cœur véritablement la situation qui touchait, pourtant c'était son serviteur. Et lui, il était centurion. Il aurait pu se dire, bon, un de plus, un de moins. À l'époque, vous savez qu'il y avait l'esclavage, l'esclavagisme. Et il aurait pu se dire, un de plus, un de moins, c'est pas grave. Mais c'était son serviteur. Et pour son serviteur, lui qui était centurion, il a accepté d'aller voir Jésus et de dire, « Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je crois que tu peux me secourir. » Il a pris cette chose à cœur. Il a fait avec beaucoup de sérieux. Ce soir, je ne sais pas comment on est venu dans ce lieu. Est-ce que nous sommes venus avec sérieux? Ou est-ce que nous sommes venus peut-être avec légèreté, superficialité, en disant, bon, ben, je viens pour voir comment ça se passe. Par curiosité, quand on voit la foule qui suivait le Seigneur, il y avait toutes sortes de personnes qui suivaient le Seigneur. Il y en a qui le suivaient à cause des miracles. Et combien d'exemples on a de personnes qui sont venues à l'église, qui ont connu même un miracle dans leur vie, qui ont été guéries et qui sont reparties, peut-être guéries dans leur corps, mais pas guéries dans leur cœur. Et ils ont repris la même vie qu'ils avaient avant. Qu'est-ce qui nous motive ce soir? Et quand je pensais à cela, je pensais à Dieu lui-même. Dieu qui prend notre sort au sérieux. Dieu ne se moque pas de nous. Dieu ne fait pas semblant de nous aimer. Mais Dieu il prend notre sort au sérieux à tel point qu'il n'a pas à dépêcher n'importe qui pour venir sur la terre. Imaginez, il aurait pu envoyer un ange. Il aurait pu s'arranger pour que le salut passe par un ange. Peut-être, mais même si quand on le comprend, on sait qu'il fallait que ça soit Jésus. Mais il aurait pu choisir un prophète, peut-être. Mais non, il a dit, je vais vous envoyer mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui qui faisait la joie de son cœur, c'est lui que le Dieu Tout-Puissant a choisi d'envoyer pour que nous puissions être sauvés de notre péché. Je crois que quand on sait cela, on comprend que notre situation, elle importe aux yeux de Dieu, que Dieu nous a pris au sérieux et qu'il a voulu véritablement nous sauver. Et ce qu'il aime, le Seigneur, ce qui fait que notre foi va grandir, c'est quand on a cette attitude de cœur de dire, « Mais Seigneur, je veux être sérieux. Sérieux avec les choses qui te concernent. Sérieux avec mon éternité. » Combien de personnes aujourd'hui dans ce monde ne sont pas sérieux avec ces choses-là qui sont tellement importantes? Là où nous passerons l'éternité. On voit que dans cette situation, Jésus, il rappelle, il y en a qui seront assis à table avec le Seigneur, il y en a qui seront dans les pleurs et les grincements de dents, jetés au dehors. Je ne sais pas quelle situation... si, je sais. On choisit tous la première situation. Mais pour que cela se passe, il faut être sérieux. Avec la parole de Dieu, avec ce qu'il nous partage. Une foi grande à cause d'un cœur qui est sérieux, qui choisit de réfléchir avec sérieux aux choses de Dieu. Mais une foi grande parce qu'elle ne dépend pas aussi des moyens. Matthieu chapitre 15, verset 33 nous dit, c'est le disciple qui lui dit, comment nous procurer dans ce lieu désert? Vous savez, c'est au moment de la multiplication des pains. Une grande foule qui suit le Seigneur, ils se trouvent dans un lieu désert, ils ont faim. Comment nous procurer dans un lieu désert, une si grande quantité de pain pour assasier une si grande foule. Une impossibilité qui est là. Et le Seigneur Jésus, parce qu'il est tout puissant, parce qu'il a même le pouvoir de multiplier la matière, il a pourvu aux besoins de ces personnes. Et il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Les magasins, ils étaient loin, ils s'étaient fermés, le Auchan du coin, il était peut-être clôturé déjà. Le Seigneur Jésus a permis que toute cette foule soit rassasié, et le centurion romain ne s'est pas, lui, appuyé sur ses moyens financiers. Est-ce qu'il avait un peu d'argent, ce monsieur? Bon, s'il était centurion, ça veut dire qu'il avait un bon poste à l'époque. L'Empire romain, c'était quand même le premier empire du moment. Et donc, si lui, il faisait partie d'un des centurions de l'armée de cet empire, je pense qu'il devait avoir une sacrée somme d'argent qui lui revenait tous les mois. Mais est-ce que cette somme d'argent, par rapport à la maladie de son serviteur, lui, il faisait quelque chose. La seule chose qu'il aurait pu se dire, c'est ben, « je vais acheter un autre esclave ». Mais pour ce serviteur qu'il aimait, il a montré de la compassion pour ce serviteur, son argent ne lui servait à rien. Sa foi ne devait pas dépendre de ses moyens financiers, sa foi devait dépendre de sa sincérité. Je pensais à ce petit verset, je crois que c'est dans Timothée, où il est question que l'amour qui vient d'un cœur sincère, d'une foi sincère, pardon. L'amour qui vient d'une foi sincère. Je crois que la foi de ce centenier était grande parce qu'il y avait une sincérité qui venait de cette foi-là. Une foi sincère et ça produit un amour véritable. La situation de son serviteur, c'était quelque chose qui le touchait parce qu'il avait véritablement une relation bienveillante avec ce serviteur. Et le fait, c'est pas le fait d'être riche ou le fait d'être pauvre qui changeait quoi que ce soit. D'ailleurs, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, c'est pas ça qui fait qu'on va aller au ciel. Un riche peut aller au ciel, comme un pauvre peut aller au ciel. Ce qui fait toute la différence, c'est la sincérité de cœur devant le Seigneur. Et encore une fois, je pensais de quelle manière Dieu, il est sincère avec nous. Dieu est sincère avec nous. Je vous pose cette question, qu'est-ce que vous préférez? Qu'on vous dise la vérité ou qu'on vous encense? Qu'on vous dise que tout va bien? Imaginez que je vous fais un repas et je sais pas, peu importe le plat, mais j'oublie le plat au four et le plat il est totalement carbonisé. Et malheureusement, j'ai fait tomber la salière dans le plat. Et comme vous n'osez pas me contrarier, vous me dites « Ah, c'était magnifique, c'était merveilleux !» Est-ce que ça va me faire grandir dans le prochain plat? Est-ce que vous allez accepter ma prochaine invitation? C'est sûr que non. Il vaut mieux pour vous que vous me disiez la vérité. Et je crois que Dieu est sincère. Dieu n'use pas de duplicité. Dieu nous aime avec un amour sincère. Dieu, il n'est pas là pour nous tromper. Dieu n'est pas là pour nous dire certaines choses, mais pour nous faire quelque chose dans le dos. Dieu, il est sincère. Dieu nous dit la vérité. Ce soir, Dieu nous dit que nous sommes pécheurs. Et comment est-ce que nous réagissons à cette nouvelle? Est-ce que nous disons, ah, mais encore quelque chose de négatif? Ah, voilà, je veux aller à l'église, je veux m'en sortir et j'entends une parole négative. Oui, mais est-ce que la solution à notre problème ne passe pas déjà par cette étape de reconnaître que nous sommes pécheurs devant Dieu, mais que Dieu veut nous faire grâce? Parce que, oui, Dieu veut nous dire que nous sommes pécheurs, mais il ne veut pas s'arrêter là. Dieu veut nous dire la vérité, mais il veut nous amener plus loin et il veut nous dire, confie-moi ton péché. Regarde à la croix où j'ai payé pour tes péchés. Et si nous acceptons d'avoir cet état de cœur, cette foi sincère qui est placée en lui, cette foi qui nous amène à manifester de l'amour, comme nous l'avons chanté, Dieu nous a aimé le premier, alors nous voulons l'aimer en retour. Mais c'est lui qui nous a aimé le premier, parce qu'il avait cette sincérité de cœur, et nous voulons avoir cette foi qui augmente à cause de cette sincérité de cœur. Je pensais au fait que Dieu désire que nous soyons plus préoccupés par ceux qui nous entourent que par l'argent, par exemple. C'est le cas de cet homme. Il est centurion, il a une position, mais il est préoccupé par le sort de ce serviteur parce qu'il a de l'amour pour lui. Et je pensais à cette parabole que le Seigneur Jésus nous donne dans Luc, chapitre 16. Je rappelais juste rapidement ce dont il est question. C'est un homme riche qui avait un économe. Et à un moment donné, l'homme riche apprend que l'économe, celui qui gère tous ses biens, il est dilapide. Il les gère très mal. Et à un moment donné, il lui dit « Rends compte de ton administration et parce que je vais te retirer de ce travail-là. » Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le monsieur, il se met à aller voir ceux qui ont des dettes envers le patron et il dit « Combien tu dois ?»« Ah, je dois 100 mesures d'huile. » Eh bien, tu en dois maintenant plus que 50. « Combien tu dois, toi ?»« 100 mesures de blé, tu en dois plus que 80. » En fait, le patron apprend ce qui s'est passé et il est dit qu'il a loué l'économe. Parce qu'il a agi intelligemment à partir du moment où il a compris qu'il devait rendre compte de sa façon de gérer les biens. Comment est-ce que nous gérons ce que le Seigneur nous a confié? Vous allez dire, mais moi je n'ai pas grand-chose. Oui, mais est-ce que déjà votre vie, ce n'est pas quelque chose? Est-ce que vos enfants, ce n'est pas quelque chose? Est-ce que ce que vous possédez, les personnes de votre famille, ce n'est pas des choses que le Seigneur... C'est ça dont il est question. Dieu nous a mis en gestion, en administration de toutes ces choses que nous avons sur la terre. Mais un jour, il est dit que nous devrons rendre compte devant lui. Nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ pour savoir de quelle manière on aura utilisé tout ce qu'il nous a confié. Tout ce que nous avons, ce n'est pas à nous, finalement, c'est à lui. Et il nous le prête pour un temps, mais un jour, ce temps s'arrête. Et cet économe, il a réfléchi, il a dit, si je continue à dilapider les gains, je vais être puni à la fin. Mais si je commence à utiliser ce que j'ai, enfin, ce que le patron me prête, et que je me préoccupe des autres, alors je vais être récompensé. Comment est-ce que nous faisons avec ce que le Seigneur nous a confié? Est-ce que nous avons cet amour qui nous anime? Est-ce que nous avons cette foi sincère? Est-ce que nous jouons un double jeu? C'est-à-dire, ah mais moi, de toute manière, je donne l'argent à l'église, mais le reste de la semaine, je fais ce que je veux. Ou est-ce que nous disons, Seigneur, ce que tu m'as confié, je veux l'utiliser avec sagesse, mais surtout, je veux mettre en pratique tout ce que j'apprends. Et je viens à l'église, oui, mais je ne veux pas avoir un double visage. Je ne veux pas avoir un visage à l'église, un visage dans ma maison. Seigneur, je veux être vrai, je veux être sincère devant toi. Une foi grande, c'est une foi sincère. Une foi grande, c'est une foi qui ne dépend pas de ce que le monde peut dire aussi. Quand il était centurion, cet homme-là, il aurait pu se laisser aller en entendant la voix du monde, du prestige. Il avait une position dans cette société, il devait être honoré. Les gens devaient les saluer, les soldats devaient s'incliner devant lui, peut-être même les autres personnes, peut-être même les juifs, et il devait être salué en public en tout cas. Il avait ce pouvoir-là, il avait même des légionnaires qui lui obéissaient au doigt et à l'œil. Il claquait des doigts, il y a quelqu'un qui se présentait. Mais face à cette situation, c'est lui-même qui a choisi de se déplacer en personne. Il a choisi de prendre un autre chemin. Il a choisi pas de fonder sa foi sur ce que le monde disait de lui. Il a choisi de fonder sa foi sur ce qu'il connaissait du Seigneur. Et il a choisi de connaître un peu plus le Seigneur. Il a choisi de montrer sa soumission au Seigneur. Seigneur, je ne suis même pas digne que tu viennes sous mon toit. D'abord, il a envoyé des personnes pour y aller à sa place, mais pas par orgueil, par profonde soumission, parce qu'il ne voulait même pas rencontrer le Seigneur. Mais à un moment donné, il le rencontre, il dit, Seigneur, je ne veux même pas que tu viennes sous mon toit, je ne suis qu'un païen. Par contre, je crois que tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et je vais me soumettre à ton pouvoir. Quelle scène de voir un légionnaire, un centurion, alors je ne sais pas s'il était habillé avec le casque et l'armure, etc., mais en train de s'accroupir devant un simple homme, un simple charpentier de Galilée, mais qui n'était pas un simple homme. Voilà ce qui fait la force de la foi de cet homme, c'est qu'il avait compris qui était cet homme. C'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'homme sans péché, qui allait mourir pour nous à la croix. Il démontre sa profonde humilité. Et ce soir, je crois que là où nous sommes, vous l'avez entendu, Dieu ne regarde pas aux apparences, Dieu regarde au cœur. Là où nous sommes, le Seigneur peut regarder et voir s'il trouve un cœur qui s'humilie, un cœur qui se soumet. Un cœur qui reconnaît que Jésus est tout-puissant. Et il explique ceci, il lui dit, « Seigneur, moi j'ai des supérieurs et j'ai aussi des serviteurs, j'ai des personnes à qui je dis, fais ceci, ils le font, va et ils vont, etc. etc. » Cet homme avait compris que l'autorité se transmettait par la soumission. Et que quand lui recevait ses ordres des supérieurs, des généraux, les généraux l'avaient reçu sûrement de César. Et que par déduction, les ordres qu'il donnait, les légionnaires les acceptaient parce que c'était comme si c'était les ordres de César. En gros, c'est ça qui se passe. Quand on est soumis, bien sûr. Quand il y en a un qui commence à faire ce qu'il veut, on se rend compte que les problèmes commencent à ce moment-là. Mais il a dit au Seigneur, Jésus, c'est la même chose pour toi. Je sais, je crois qu'il n'y a pas de médiateur autre que toi entre Dieu et nous. Tout ce que tu dis, Seigneur, ça te vient de Dieu. Et ce que je remarque dans le ministère de Jésus, c'est qu'il ne faisait pas les choses qui lui plaisaient de faire, mais dans toute sa conduite, dans toute sa vie, dans tout son ministère, il ne faisait que ce que le Père lui avait montré. Il passait du temps à la prière. Est-ce que le Seigneur Jésus, qui était le Fils de Dieu, n'aurait pas pu se permettre de pas prier? Il aurait pu, quand on y réfléchit comme ça. Mais il a choisi d'être ce modèle d'obéissance et de soumission pour nous montrer comment la foi elle pouvait être grande devant le Seigneur, comment cette foi pouvait plaire au Seigneur. C'était d'avoir cette foi qui est soumise en toutes choses. Et tous les miracles qu'il faisait, c'était le Père qui le conduisait par le Saint-Esprit à les faire. C'était ce qu'il voyait du Père. Et ce soir, le Seigneur voudrait tellement agir dans nos cœurs. Ce soir, le Seigneur voudrait tellement agir dans nos situations, quelles qu'elles soient. Mais que nous puissions avoir cette foi qui se soumet, cette foi qui accepte de reconnaître que Jésus a tout pouvoir sur la maladie, tout pouvoir. Parce que sur la croix, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, nous dit la parole. Et nous croyons qu'il est tout puissant pour guérir n'importe quelle maladie. Et nous voulons nous soumettre à son autorité. Cet homme, c'est ce qu'il avait compris. Il avait compris que son serviteur pouvait être guéri parce que Jésus avait le pouvoir, l'autorité sur la maladie. La preuve, c'est qu'à la fin, c'est ce qui s'est passé. Il a été guéri. ce serviteur. À l'heure même où Jésus a dit la parole, qu'il te soit fait selon ta foi, le serviteur a été guéri. Ce soir, quelqu'un est dans la maladie ? Placez votre foi dans le Seigneur. Soumettez-vous à la voix du Seigneur. Je pensais à cette anecdote, je ne sais plus si je l'ai déjà partagée, mais c'est le capitaine d'un bateau qui regardait la nuit sombre et qui voyait des lumières au loin. Et il dit au transmetteur d'envoyer un message et il dit « Changez votre course ! » 10 degrés sud, il voyait une lumière et il disait « Mais il faut qu'il se déplace ce bateau qui arrive là. » Et tout de suite, il y a un message qui répond et qui dit exactement l'inverse. « Changez votre cours, 10 degrés nord. » Alors l'autre, c'est le capitaine, il se sent touché dans son orgueil. Il dit au transmetteur d'écrire un autre message. « Changez votre course, 10 degrés sud, c'est le capitaine qui parle. » Et l'autre répond en face « Changez votre course. » 10 degrés nord, c'est le troisième classe Jones qui parle. Alors le capitaine, il est en furie, il est énervé, mais pour qui se prend celui-là? Et il dit, changez votre course, c'est un bateau cuirassé qui arrive. Et celui qui est en face répond, changez votre course, c'est un phare qui vous parle. Parce que le bateau est en train de se diriger vers un phare. Et combien de fois on entend des paroles qui nous dérangent peut-être, des paroles qui nous font mal. Oui, le fait d'entendre qu'on est pécheur, c'est quelque chose qui fait mal. Ça nous humilie, ça nous prend au-dedans. Et on aimerait entendre d'autres paroles. Mais combien ces paroles sont pour notre salut? Imaginez que le bateau ait continué malgré tout. Combien d'hommes et de femmes, malgré la voix du Saint-Esprit qui parle à leur cœur continuellement, malgré toutes les prédications peut-être qu'ils ont entendues, ils choisissent d'aller dans le décor, au lieu de se détourner et d'être sauvés. Quelle voix écoutons-nous? Est-ce que nous écoutons la voix du monde? Il aurait pu écouter la voix de ses amis centurions qui lui disaient « Mais tu vas voir un juif en plus, un pauvre charpentier !» Il a choisi d'écouter la voix de Dieu qui lui disait « Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci a tout pouvoir sur la maladie, sur n'importe quelle situation. » Quelle voix est-ce que nous choisissons d'écouter ce soir? Plaise à Dieu que nous puissions entendre la voix du Saint-Esprit qui parle dans ces moments au travers de sa parole et qui nous dit « Soumettez-vous à moi, soumettez-vous à ma parole et choisissez de marcher dans cet état de cœur afin que votre foi soit grande. » Et je finis avec cette pensée. Une foi qui est grande parce qu'elle ne dépend pas des mérites. Dans Luc 15, quand il est question de cette histoire, les Juifs qui ont précédé le centurion, ils disent « Voici, il mérite !» Que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Il a financé notre temple. Alors, il faut que tu le bénisses. Il le mérite. Combien, malheureusement, on entend encore aujourd'hui des personnes qui sont dans cette croyance que ce qu'on va faire détermine la façon dont Dieu va nous bénir. Les œuvres qu'on va faire déterminent qu'on va être sauvé. Alors que le Seigneur nous offre la grâce. Je pense aussi à ce frère, vous savez, le frère du fils prodigue, qui était dans la maison, il a dit à son père, « Voici, il y a un grand nombre d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres. » Quelqu'un qui pensait avoir une foi grande, parce qu'il servait depuis un grand nombre d'années, mais il passait à côté de ce que le père voulait pour lui. Et il ne profitait pas de ce qu'il possédait déjà. Et combien notre foi ne doit pas dépendre de ces œuvres-là, de dépendre de nos mérites, dépendre de ce que nous pouvons faire. Combien notre foi ne doit pas s'appuyer sur la quantité de versets que l'on connaît. C'est bien d'en apprendre des versets. Hein. Je ne vais pas dire ça devant M. Go, que je ne vais pas dire l'inverse. C'est une bonne chose. Mais combien on est d'accord pour dire que ce n'est pas le nombre de versets qui va nous sauver. Ce n'est pas le nombre de chants même qu'on peut chanter qui vont nous sauver. Ce n'est pas le nombre d'heures qu'on peut passer dans l'église qui vont nous sauver. Ce qui va nous sauver, il y a une seule chose qui va nous sauver, c'est la croix de Jésus-Christ. La croix du Seigneur Jésus, le fait qu'un homme qui était sans péché a choisi de donner sa vie pour nous. J'aime cette parole de l'apôtre Paul qui dit « Je n'ai pas voulu savoir autre chose, je n'ai pas eu d'autre pensée, savoir autre chose. » Il n'y a qu'une seule chose finalement que je voulais que vous sachiez, c'était quoi? Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si nous voulons que notre foi soit grande, si nous voulons que notre foi soit vivante, il faut qu'elle soit fondée sur la croix de Jésus-Christ, sur l'œuvre de Jésus à la croix. Il faut que nous comprenions que Jésus a donné sa vie pour nous, et il faut que nous soumettions notre vie à cela en disant « Seigneur, oui, j'ai compris, je veux m'humilier devant toi. Je veux abandonner mes projets égoïstes. Jusqu'à présent, j'utilisais ma vie pour faire ce qui me plaisait à moi. Mais j'ai compris que je dois te donner ma vie et que tu dois en faire, Seigneur, ce que tu veux. Seigneur, je veux confesser mon péché. J'ai compris que sur les épaules, j'ai des fardeaux qui sont là. Je ne sais pas comment m'en débarrasser. Je sais que c'est à la croix que je peux me débarrasser de ce fardeau parce que la Bible nous dit ce message merveilleux. Il a été fait péché pour nous afin que nous devenions, nous, pauvres pécheurs, justice de Dieu. Quand je lis ce verset, quand j'y repense, j'y vois toute la bonté, tout l'amour, la compassion de Dieu envers nous et la grâce infinie de Dieu. Ce soir, que nous puissions avoir cette grande foi. Regardez la foi de cet homme. Elle est simple. Il n'est pas basé sa foi sur ses mérites, il a basé sa foi sur la simplicité. Dis un mot. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il a dit, Seigneur, je sais qu'il faut que j'apprenne par cœur toute la loi? Non, Seigneur, dis un mot. Je crois à ta puissance. Dis un seul mot. Ce soir, est-ce que nous avons cette foi simple, cette foi qui s'appuie sur l'œuvre de Jésus à la croix? Seigneur, je crois que dans ma situation, il suffit que tu dises un mot et tout est changé. Tout est transformé. Éternel, j'ai besoin de toi. Et je voudrais peut-être qu'on puisse s'incliner maintenant. Et finir avec cette pensée-là, que notre foi doit grandir. Peut-être que la situation, on est venu plusieurs fois la présenter au Seigneur et rien n'a changé. Le Seigneur voudrait te mettre en garde par rapport à l'attitude de cœur qui fait un blocage, un obstacle. Parce que son désir, c'est de te bénir. Son désir, c'est de te sauver. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, la vérité, ça fait mal. Mais quand on accepte cette vérité, quand on se soumet à cette vérité, quand on a cette attitude de cœur de dire « Oui, Seigneur, je choisis de me repentir, je choisis d'accepter ta vérité », le Seigneur, il fait son œuvre, le Seigneur, il agit, le Seigneur, il guérit, le Seigneur, il a guéri cet homme. Il est venu pour obtenir la guérison de son serviteur, il n'est pas reparti avec la guérison d'un autre serviteur, il est reparti avec la guérison de son serviteur et une promesse du Seigneur, comme quoi cela allait être fait. Ce soir, est-ce que vous voulez repartir de ce lieu de manière à avoir un cœur frustré? Ou est-ce que vous voulez avoir ce cœur qui reconnaît que Dieu fait grâce à celui qui s'approche de lui avec humilité? Ce soir, est-ce que vous avez l'assurance qu'un jour vous serez à table avec Abraham, Isaac, Jacob dans ce lieu, dans ce paradis que le Seigneur a réservé à tous ceux qui auront fait la paix avec lui? Ou est-ce que vous n'avez pas cette assurance? Si vous n'avez pas cette assurance, vous risquez de finir malheureusement dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Mais le Seigneur, parce qu'il nous aime, parce qu'il est sincère avec nous, parce qu'il est vrai, il nous dit, il te suffit de croire en une chose, la foi en une chose, la foi dans le sacrifice de Jésus. C'est la seule chose dont tu as besoin ce soir. Alors que, à l'écoute de cette parole, nous puissions ouvrir notre cœur et nous puissions dire « Oui, Seigneur, augmente ma foi. Je veux avoir cette foi qui te plaît. Je sais, Seigneur, qu'à la fin des temps, tu vas venir chercher la foi sur la terre. Seigneur, trouve dans mon cœur la foi. Cette foi qui est simple, cette foi qui est sincère, cette foi qui est soumise. Cette foi, Seigneur, qui est sérieuse, sérieuse avec les choses de Dieu, sérieuse avec l'éternité. Et que ton nom soit glorifié parce que tu vas agir dans ma vie. Amen. » Oui, Éternel, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que nous croyons que tu es ce Dieu qui ne nous cache pas les choses. Tu es ce Dieu qui nous dit la vérité pour notre bien, pour nous amener plus loin, pour nous sauver surtout de la perdition éternelle, pour nous amener dans la réjouissance aussi éternelle. Combien ça sera quelque chose de merveilleux, ce repas des noces, Seigneur. Et ce soir, tu connais les personnes qui sont présentes dans ce lieu, Seigneur éternel. Tu connais la parole qu'ils avaient besoin d'entendre. Seigneur, fortifie notre foi à tous et que nous puissions, dans ces instants, nous soumettre à ta parole. Oui, ne pas écouter la voix du monde qui résonne encore et toujours, et de plus en plus fort, mais écouter la voix du Saint-Esprit qui parle à nos cœurs pour nous amener au salut et à la vie éternelle. Seigneur, dans ces instants, touche les cœurs, sauve des cœurs et fais du bien, et que nous puissions repartir en ayant cette voix qui résonne et qui nous dit « Va et qu'il te soit fait selon ta foi ». Oui, Seigneur, fais selon notre foi, Seigneur, ce soir. Nous voulons avoir cette foi grande, cette foi qui te plaît, cette foi qui t'honore, et nous voulons glorifier ton nom. Amen.